Alors, présentons cette conférence et un petit peu le contexte dans lequel elle s'est installée. D'abord, la première chose, c'est que les UNT, et nous l'avons constaté en réalisant notre rapport à l'inspection générale, elles sont des actrices, je le dis au féminin, très reconnues, mais peut-être un peu moins connues de la communauté universitaire. Et elles sont à la pointe du développement de tous les outils et des ressources numériques de notre enseignement supérieur français. Ça, nous l'avons constaté en réalisant notre rapport. Et c'est cela que nous avons voulu mettre en valeur. L'environnement de ces universités numériques thématiques est évidemment propice au changement, mais en même temps, nous avons constaté qu'il est très touffu et que la multiplicité des acteurs ne favorisait pas obligatoirement la congruence. Là-dessus, il faudra peut-être agir. Depuis le début des années 2000, comme le disait mon président, la France connaît une forte action publique, de l'État en particulier, en faveur du déploiement des ressources numériques de l'enseignement supérieur. C'est grâce à cela que les universités numériques thématiques ont pu prendre leur place. Et je voudrais saluer en particulier mon ami Albert-Claude Benamou, qui, comme vous le savez tous, a été véritablement un des pionniers de cette aventure. Merci Albert-Claude. Votre expertise est recherchée et le modèle, les expériences que vous avez réalisées sont modélisantes, certainement modélisantes, en France et puis ailleurs aussi. Mon collègue Jean de Saint-Guilhem, qui a coordonné donc, le rapport que nous avons co-signé avec également Jean-Yves Delongo, sera retracé tout à l'heure à travers notre rapport cette nécessité, cette exigence d'une réflexion partagée entre les universités numériques thématiques, les établissements d'enseignement supérieur et évidemment leur regroupement, le GIP FunMOOC, les plateformes numériques, le ministère et également les collectivités territoriales qui ont un rôle absolument primordial à jouer dans l'enracinement de l'ensemble de ces démarches. Cette conférence, nous l'avons voulu à partir d'un petit rapport de l'inspection générale de l'administration, mais notre volonté était que ce rapport trouve sa place et en particulier puisse servir à enrichir des réflexions et surtout à faire avancer des idées et à structurer une stratégie numérique française qui existe, mais qui mérite peut-être aussi, et nous l'avons dit, avec notre liberté de parole, d'être améliorée. Et donc, c'est pour cela que cette conférence a été mise en œuvre, et elle arrive sans doute à point nommé, puisque vous êtes nombreux à avoir répondu positivement. C'est avec également tout l'environnement francophone et mondial que nous avons réalisé cette conférence, puisque nous sommes sur un socle de valeurs qui est le nôtre et que nous revendiquons. Et ces valeurs, ce sont d'abord les valeurs d'un Internet neutre, d'un Internet multiculturel, d'un Internet multilingue. Et c'est sur cette base-là que nous continuerons. Et c'est avec l'UNESCO que nous proposerons d'élargir l'accès libre à l'éducation et tout au long de la vie, à partir de cette énergie pédagogique qui est portée par le numérique. C'est un ferment que vous connaissez mieux que quiconque, très puissant d'innovation, de transformation et de démocratisation de notre enseignement supérieur. Avec la Commission nationale française, je remercie le président Janicot de nous avoir soutenus, et également avec le soutien de la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO, nous allons tous ensemble lancer des passerelles et tenter de participer à l'édification d'un monde meilleur et d'un monde pacifique et d'un monde où le respect de chacun sera au cœur. Et enfin, je remercie l'AEF et Cyril Duchamp d'avoir très aimablement accepté de nous aider et d'être un porte-voix de notre action. Merci à tous.
Monsieur le Président Janicot, chers collègues, chers amis. Pardon d'abord pour ma voix. J'ai essayé, après un traitement corticoïde intensif hier soir, de récupérer ma voix. Je vais essayer donc de vous dire les quelques mots d'introduction de ce colloque avec l'essai de définir quelques objectifs communs pour contribuer justement aux objectifs de l'éducation 2030, aux ODD 4 de l'UNESCO, pour le développement durable et numérique ouvert dans l'enseignement supérieur en particulier, mais évidemment dans l'ensemble de l'espace éducatif mondial. Alors, avec Sonia Dubourg-Labrof, nous avons effectivement la charge de planter ce décor consacré aux stratégies numériques en France et à l'international pour le développement numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quelques pistes de réflexion. Et d'abord, je voulais vous dire à titre personnel qu'après avoir, dans les années 2000, imaginé vraiment à partir de mon expérience personnelle de médecin universitaire, avec une pratique de la pédagogie, que nous pourrions offrir au monde universitaire français et francophone, et même international, l'ensemble des ressources d'enseignement universitaire en libre accès. Et aujourd'hui, elles sont au nombre de 40 000 sur le portail du ministère de l'Enseignement supérieur français. Il y a vraiment une satisfaction à voir là la réalisation de ce que d'aucuns, et je me souviens de quelques conférences avec la CPU en 2002, quand j'étais en chargé de mission auprès de Claudie Aigneret pour ce dossier-là, le lancement des universités numériques thématiques. C'était considéré véritablement comme une utopie, peut-être dangereuse, de mettre tout en accès libre, ouvert, gratuit. Et est-ce que cette bataille du numérique ouvert, en particulier dans la sphère éducative, a été gagnée aujourd'hui, après près de 20 ans d'efforts avec l'UNESCO, avec de grandes institutions? Eh bien, on peut encore, vous allez voir qu'on peut encore se poser la question. Est-ce que les UNT l'ont fait? Est-ce que, comment, avec quel succès, quels échecs? C'est le cœur de nos débats de ces deux jours. Est-ce que l'aventure des années 2000 est terminée? D'aucuns, avant le rapport de l'IGA-ENR, considéraient qu'il y avait quasiment un acte de décès à signer en ce qui concernait les UNT, que ce rapport allait être justement la pierre tombale des UNT, probablement, si je peux, entre guillemets. Je ne crois pas. Enfin, il faut rendre hommage, et je veux le dire parce qu'on a eu quelques échanges avec nos amis inspecteurs généraux. Je veux rendre hommage à la force des corps d'inspection de l'administration, qui sont véritablement neutres, objectifs, indépendants et libres. Et ce rapport, loin d'être totalement laudatif, parce qu'il est neutre, effectivement, il comporte un certain nombre de bémols très clairement exprimés. Et il est clairement nécessaire, de prendre, peut-être à l'occasion de ce colloque, et plus largement dans le cadre des institutions qui nous gouvernent, de prendre la mesure de ce qu'il faut encore faire pour changer de braquet à l'intérieur de nos UNT, à l'extérieur, avec l'ensemble du mouvement numérique intégrant les MOOC, etc. Et comment nous pourrions, grâce à une nouvelle aide vigoureuse qui est signalée dans le rapport, de nos instances sur le plan financier, sur le plan de la communication, les UNT ont souffert d'une absence d'exposition médiatique, alors que le phénomène des MOOC est né dans un tintamarre médiatique, on a parlé ça à la MOOCmania, qui a fait probablement la différence, et peut-être parce que le monde était prêt, plus le monde sociétal était plus prêt à comprendre la mutation numérique aujourd'hui que ce n'était le cas dans les années 2000, où nous avons œuvré pour lancer véritablement ces processus. Alors, je vais utiliser mon support visuel. Justement, donc, notre objectif est bien de tirer bénéfice de l'expertise des UNT, d'abord françaises, mais par nature et contiguïté normale et naturelle francophone, et des initiatives et des politiques autres innovantes de la France en faveur de ce qui est notre militance, les ressources éducatives libres et ouvertes. C'est ça le cœur. Et le démontre. C'est, là, il est intéressant de travailler sur les UNT, sur ce modèle, entre guillemets, pour voir comment nous sommes peut-être un démonstrateur exemplaire de cette politique en faveur des ressources éducatives libres. Alors l'UNESCO, notre président l'a rappelé, travaille sur ces concepts depuis les années 2000. C'était contemporain d'ailleurs de notre propre réflexion, contemporain de la réflexion du MIT, qui avait lancé son idée de ressources éducatives libres. C'était, comme souvent actuellement, les bonnes idées ou les idées nouvelles naissent dans différentes sphères géopolitiques ou culturelles. Et ça converge parce qu'on a un système de communicants extraordinaire avec Internet. Voilà, c'est ça la mutation. UNESCO 2002, première grande réunion sur les ressources éducatives libres. Ça aboutit, après de longs travaux, de multiples commissions, puis de multiples réunions, en 2012, à ce que tout le monde devrait connaître ici, c'est la déclaration en faveur des ressources éducatives libres du monde, de l'ONU, de l'éducation. C'est les ressources éducatives libres, déclaration de Paris, donc importance de notre présence dans ce secteur. Je vais zapper parce que tout le monde connaît cette définition, mais en même temps, la consultation, l'usage et l'adaptation des ressources éducatives font partie. L'adaptation. Vous voyez, le processus par rapport au droit d'auteur, au copyright, à quel point on change de paradigme. Alors, avec une indication par la communauté des usagers, et là, on est déjà dans le monde des réseaux sociaux du web 3.0, et pour un usage non commercial. Et vous voyez le débat qu'on a aujourd'hui sur les MOOC avec leur modèle économique. Comment faut-il l'interpréter ? On n'est qu'à l'ouverture du colloque. Je vous laisse réfléchir et apporter vos contributions. Et si on n'a pas bien conscience de cette courbe de l'évolution du web, qui en 20 ans, donc extrêmement rapide, tout a changé. On était web 1.0 à l'origine des UNT. On rêvait d'échanger des documents, des textes, entre nous, enseignants et étudiants, librement, gratuitement. Ces documents sont devenus de plus en plus riches. On ne pouvait pas, à l'époque, envoyer des vidéos trop lourdes, etc. Ça ne passait pas, le débit n'était pas suffisant. L'accès à tout ça était très compliqué. Et on n'avait pas le débit, on n'avait pas le Wi-Fi, on n'avait rien de tout ça. Aussi, et on passe à Web 2.0 en 10 ans. C'est-à-dire très très vite. Et on est dans les réseaux sociaux, on vit là-dedans. Et le contexte technologique a complètement changé. Si on n'a pas bien compris, et l'UNESCO est encore à la manœuvre depuis déjà au moins une dizaine d'années, sur le mobile learning, avec l'apparition des smartphones. Actuellement, il y a plus de 2 milliards de smartphones dans le monde. Et outils formidables pour l'éducation. Je ne vais pas dépasser mon temps de parole. Je regarde. Enfin, et ça, c'est le e-learning. On peut échanger. On est dans un système de socialisation où les documents peuvent être interprétés, discutés, faire de la pédagogie avec. Et on comprend mieux l'arrivée du concept qui n'est pas si innovant que ça, contrairement à ce que certains disent, la flipped education. Moi, je la connais depuis le début de mes années de médecine. On faisait d'abord travailler les documents par nos étudiants. Moi-même, j'étais étudiant. On me demandait de regarder, de faire mon cours et de remplacer le truc.
C'est très bavard, hein, donc.
Et je termine. Le web 3.0, objets connectés et des applications. Et je termine. Et enfin, Web 4.0, des agents personnels intelligents, on va le voir arriver avec les robots intelligents, etc. Alors, la communauté universitaire internationale, je ne vous cite que Steve Wheeler, mais il y en a bien d'autres, Dave Cormier, etc., vous verrez, est d'accord sur l'ensemble des vertus des OER pour aider les étudiants, pour apprendre plus et mieux, dépenser moins et mieux réussir. Et puis, on est dans l'ère que tout le monde connaît, de l'acronyme anglo-saxon, Anytime, Anywhere, Any Device, donc n'importe quelle machine, Any Content, et là, on est dans le libre, parce qu'il faut pouvoir accéder aux documents. Et bien sûr, les UNT, elles ont évolué avec ces ce contexte technopédagogique, en créant finalement, et c'est un des mérites en particulier de notre ami Majada, Uniciel, l'ensemble de la communauté des UNT a indiqué que c'était essentiel non pas d'avoir des documents comme ça en libre accès, en nombre, etc., parce que là c'est l'info-obésité, c'est des pédagothèques fonctionnelles, évolutives, labellisées, adaptées aux évolutions du web. Alors bien sûr, l'apport des UNT au métaportail français et francophone est de plus en plus vers les portails internationaux, avec l'OCC, c'est le nouveau nom de l'Open Courseware, Europe, etc. Juste quelques images pour terminer. On a créé donc l'espace, grâce à Geneviève Fioraso et à Thierry Mandon, l'espace numérique universitaire ouvert français, depuis peu de temps, fin 2015. Et puis, avec ce moteur de recherche produit par nos universitaires de Valenciennes, qui a conduit à l'espace numérique universitaire francophone ouvert, dont notre ami Mona Laroussi et Georges Malamoud de l'AUF vous parleront tout à l'heure ou demain. Et bien sûr, il faut réfléchir sur comment mieux intégrer l'espace universitaire européen ouvert avec l'initiative Open Education Europa, qui est encore un peu microscopique par rapport à l'offre de ressources en toutes les langues, telles que nous pourrions l'imaginer dans l'optique éducation 2030. Et bien sûr, l'initiative du MIT ne peut être oubliée parce qu'elle est majeure. Elle a un développement non seulement dans le monde anglo-saxon, mais dans les espaces géopolitiques et linguistiques multiples. Et donc, c'est en collaborant, je pense, entre tous ces espaces que nous pourrions créer l'espace UNESCO, qui aboutirait justement à un espace mondialement partagé. Je vous remercie.